Nous sommes mercredi 22 mars 2017, il est 21 h 19 parce qu'on est à la bourre. Vous écoutez le Dojo Bar.
Bah.
Bonsoir à tous, bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Ah, Zergy est là finalement. Ce soir, dans le Dojo Bar, il n'y aura pas de tour de table de l'actualité. Parce qu'on.
Il n'y a pas d'actualité.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas d'actualité, c'est qu'on n'a pas le temps de la traiter parce qu'on joue à Zelda.
Ça.
C'est pas tout compliqué. Faire. Ta vie se résume aujourd'hui à jouer à Zelda. C'est boulot, dodo, Zelda en gros. Donc
bah, surtout, c'est. Ouais, moi le métro maintenant, c'est Zelda dedans. Donc c'est plutôt chouette ça.
Ouais, non, mais c'est cool. C'est clair que ça change un peu la vie. Du coup. Ça va être une émission spéciale Zelda, je rassure tout le monde, nous avons divisé cette émission en deux parties, donc cette semaine nous allons essayer de rien spoiler du tout, donc pas de divulgachi, on essaye de garder quelque chose de consistant. Par contre on va quand même parler des mécanismes de jeu, donc si vous voulez garder la découverte totale du jeu, bah vous pouvez raccrocher tout de suite ce podcast ou ce direct, parce que voilà.
On ne parlera pas de la place de cet épisode dans la timeline des gens de Zelda.
On ne parlera pas non plus de cette, comment dire, de cet épisode du Dojo Bar dans la timeline du Dojo Bar, parce que c'est très compliqué.
Alors en fait, il se passe avant l'épisode sur le Zelda spoil, mais si on considère le fait que j'ai été battu au dernier...
au dernier verso, en fait,
dernier verso comme point de la timeline, voilà. C'est une autre timeline.
Le problème, c'est que effectivement, en 2015, il y a eu une défaite de Drosgar, donc dans un cas, il a gagné le reverso
Dantix.
Et nous sommes dans la saison 9, pardon, Dantix, et dans l'autre cas, bah, il a perdu le reverso et nous sommes dans la saison 8, donc c'est un peu compliqué.
Et en fait, on est devenu le Sony Bar ou Nintendo Sony Bar, voilà. Voilà.
Exactement, et Cyrar a fait une opération de rétrécissement de sexe.
C'est ça, et on joue à Mario sur PlayStation 5.
C'est une réalité alternative absolument effroyable.
Exactement.
Voilà, en exclusivité mondiale pour cette émission, nous allons utiliser un nouveau système breveté, un nouveau système breveté du Nintendo Jo FR, en exclusivité mondiale, le détecteur de spoil, ou DS, hein, réglé spécialement pour Nintendo, donc c'est le Nintendo DS. Hein, nous avons aussi en complément le détecteur de spoil insidieux, hein, le Nintendo DSi. Et nous avons pour finir, en complément de tous ces systèmes pour la partie qui concerne les ennemis, hein, nous avons le détecteur danger et démon de spoil, le 3DS. Voilà. C'est une exclusivité mondiale du Nintendo Jo FR, donc vous êtes sûr de ne pas vous faire spoiler. Par exemple, hein, je commence très simplement. Donc, à la fin de Breath of the Wild, le boss de fin, c'est Ganon. Voilà.
Mais c'est pas un spoil.
Ah si, c'est un spoil. Voilà, donc ça spoil. Hop, l'alarme se déclenche et on est tranquille.
Il dit ça au bout de 2 heures de jeu.
Puis, du coup, si l'alarme passe après, c'est un peu con, t'as quand même entendu le spoil.
T'as dit un jeu vidéo. T'as dit que Breath of the Wild était un jeu vidéo, c'est du spoil. Ah, je suis désolé, à un moment, faut essayer d'être... Donc vous spoilez pas, sinon ça sonne. Voilà.
Du coup, si je suis en train de dire que Breath of the Wild, c'est le jeu vidéo pour les dominer tous, c'est du spoil. C'est ce que je pensais.
Ah oui, non, mais là, arrêtez, parce que là, vous allez me détraquer le système, là, ça va pas du tout.
Exactement.
Mais je veux dire, on va pas y arriver. Donc, dans Breath of the Wild, qui est donc un amusement vidéoludique interactif...
Exactement.
Ça devient très compliqué.
Molière serait fier de toi.
Attends, tu peux pas test. Donc la première partie de l'émission, on va la consacrer... On a essayé de couper un peu en deux les sujets mécaniques de jeu. Alors, de manière très compliquée, hein. Je pense que ça va être beaucoup plus bordélique que ça. On a dit, voilà, la partie exploration, découverte, progression, tout ça en première partie, et en deuxième, la partie vraiment beaucoup plus mécanique, la physique, les environnements, l'influence de la température, les combats, les sanctuaires, les choses comme ça. Voilà. Donc on est vraiment... On essaye en tout cas de faire en deux parties distinctes. Ce qui va être très compliqué. Je vais commencer par vous lancer, alors je pense qu'on pourrait le faire ça pour tous les sujets, hein, mais je vais commencer par vous lancer dans un open world... Il faut souvent grimper des tours. Par contre, dans Breath of the Wild, il faut grimper aussi sur des tours, mais ça fait pas tout à fait pareil.
Ok, cool.
Attention, Antix prend la balle au bon.
Fou prend cavalier en des bras. Attends.
Ok, pas mal. Ça se sent que je suis fatigué ou pas? Oui, ça se sent.
Oui, un petit peu. Bah, déjà, on pourrait commencer peut-être par parler de l'esprit général du jeu.
Oui.
Puisque, enfin, il y a des tours à grimper, certes, c'est un Apple World, certes, mais le jeu a une particularité qui n'était pas arrivée dans un Zelda depuis. Je pense Link's Awakening. C'est que globalement.
Ah, bah oui, mais là, tu cherches la merde.
Non, mais. C'est qu'en gros, après passer 5 minutes de jeu et une petite intro dans une caverne à contrôler Link en caleçon, on te lâche dehors avec une petite cinématique qui te dit Zelda Breath of the Wild, on affiche le titre et après il y a marqué démerde-toi.
Oui, c'est un peu ce que je voulais introduire. On parlera des tours un peu après.
Enfin, et du coup,
on te lâche littéralement en slip, mais littéralement en slip sans aucun équipement. Et on te dit démerde-toi.
Voilà. Après, tu peux appuyer sur plus pour ouvrir l'inventaire et éventuellement arrêter d'être en slip. Mais c'est toi qui vois.
Mais vous remarquerez qu'il y a quand même un truc assez génial, c'est que quand on se lève, donc ce n'est pas du spoil, hein, c'est vraiment le tout début du jeu. Quand tu te lèves, en fait, le premier truc qu'on te fait faire, c'est ouvrir des coffres, enfin récupérer la tablette Sheikah, ouvrir des coffres. Tu récupères des vêtements, tu peux les équiper. Donc, et ensuite, tu as une paroi qui est trop haute finalement pour pouvoir sauter, et donc on t'oblige à escalader. Donc, normalement, dans les 30 premières secondes, tu sais que tu as un inventaire et que ça va être important. Tu sais que tu peux escalader à peu près n'importe quelle surface, et tu débarques dans le jeu. Et c'est finalement les seules informations qu'on te donne, et on te les donne par le gameplay. C'est-à-dire
on te force
à le faire.
J'aurais plutôt dit, on te dit que tu peux escalader, mais pas forcément n'importe quelle surface, c'est que tu le découvres vraiment au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu.
Bah oui, mais je veux dire, pas n'importe quelle surface, mais on te force finalement à utiliser cette nouvelle mécanique qu'est l'escalade dès le tout début du jeu, pour que tu comprennes bien qu'effectivement, tu peux escalader des surfaces, et tu te rends compte très rapidement qu'en réalité, tu peux escalader à peu près n'importe quoi.
Ah, c'était un petit peu curieux, dès le début du jeu, tu tentes un peu sur les rochers alentours, les arbres, un peu tout ce que tu trouves, et effectivement, tu te rends compte que tout est grimpable.
Bah on voit bien déjà la première minute de jeu qu'on avait testé l'an dernier en juin sur Wii U. Oui, on essayait un peu sur n'importe quoi, oui.
Oui, on a fait. Enfin, je crois que c'est toi, Drosger, qui avait fait le plus n'importe quoi en termes de mécanique de jeu. Je parle pas de la grimpette, hein, mais je parle de lancer mes armes, foutre le feu à un truc, balancer. Enfin, voilà, t'avais essayé tout un tas de trucs un peu délirants.
Ça marchait bien, hein.
Et ça marchait plutôt pas mal. C'est vrai que. Donc, cet aspect exploration commence. C'est-à-dire que finalement, on te lâche en slip et tu te
démerdes. D'ailleurs, tu n'as même pas d'armes. Bon, assez rapidement, le jeu est quand même bien fait. Hein. Tu remarques rapidement sur ta droite qu'il y a un petit chemin qui descend, qui mène à une espèce de temple en ruine, et sur lequel tu vas trouver une branche d'arbre, puis un vieux monsieur qui va te... pas t'introduire, mais plus ou moins te guider. Voilà. Et assez rapidement, on donne un premier objectif qui est donc de rejoindre effectivement ce qui est la première tour. Mais même déjà à ce moment-là, en fait, tu la rejoins en suivant le chemin globalement. Mais je pense que à peu près tout le monde a essayé de faire une petite bifurcation par la droite, notamment pour essayer de récupérer cette épée plantée au sommet d'un rocher ou aller faire un tour dans ce temple en ruine.
Ah oui, il est rouillé.
Voilà, elle est rouillée. Et faire un tour dans le temple en ruine où normalement tu as rencontré ton premier beau gobelin et que tu es normalement dérouillé avec une branche d'arbre.
En chiant un maximum parce que c'est pas si simple que ça.
Alors en fait, on se rend compte que le système de combat est un petit peu plus exigeant que dans les autres épisodes.
Alors, c'est... Oui et non. Alors, sérieusement, je pense que je préfère garder le système de combat pour un petit peu après. C'est pas pour... voilà, c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de nuances à apporter sur le système de combat, donc j'aimerais bien qu'on se le garde un petit peu de côté. Effectivement, entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu arrives au premier combat, ça se passe finalement relativement vite. C'est-à-dire que t'es pratiquement obligé de tomber sur au moins un ennemi dans la zone de départ. Et c'est assez surprenant, je parlais des tours, c'est pas pour rien. Je sais pas si... Enfin, je pense que tout le monde est familier avec Assassin's Creed, plus ou moins.
Oui, ou même Far Cry. Ah ouais, pas du tout, Dragon.
Ah bah. Enfin, l'open world à la Ubisoft, de manière générale, l'idée c'est toujours d'aller grimper sur un point haut qui permet d'aller débloquer une partie de la carte. On a finalement le même genre de mécanique dans Breath of the Wild, donc tout bon open world commence comme ça, tu vas sur un point haut et puis tu découvres une partie de la carte.
Alors, on a le même genre de mécanique, sauf que monter sur le haut de la tour débloque juste la carte et pas tous les points d'intérêt qu'il peut y avoir dessus, contrairement
Exactement.
au jeu Ubisoft.
Et ça fait une grosse différence. C'est-à-dire, effectivement, dans un jeu Ubisoft, dans un Assassin's Creed, tu montes en haut de la tour et tout d'un coup, ça te débloque tout un tas de missions annexes à faire, aller ramasser les pages de scie, aller faire ça, aller chercher le coffre, aller faire du pognon, aller... Voilà. Ça te débloque tout un tas de trucs. Là, ça te permet juste d'avoir le Google Maps du truc. Hein. T'as l'OpenStreetMap local, où tu as le
T'as
nom
pas le
des...
GPL.
Même pas un GPS, enfin si, t'as plus ou moins un GPS, mais ça te permet d'avoir le nom des différents lieux, et ça te permet d'avoir la topologie du terrain. Mais c'est tout.
Et t'as même pas les noms de tous les lieux, il y a
T'as
encore des
pas les
trucs un
noms
peu cachés.
de tout, ouais.
T'as pas les noms de tout, parce que t'as les noms très génériques, et en fait, tu peux aussi en découvrir simplement en te baladant, c'est-à-dire qu'à un moment, ça te dit « Ah, vous êtes arrivé là !» Mais je trouve ça assez étonnant comme mécanique, dans le sens où on est vraiment toujours dans l'optique, on te lâche en slip, dans la nature, c'est-à-dire que même quand t'arrives à grimper sur cette putain de tour et à découvrir un morceau de carte, finalement, tu découvres quasiment rien. Ça te permet juste de te déplacer et de te repérer un tout petit peu plus facilement quand tu ouvres la carte, mais c'est tout.
Ouais, mais d'un autre côté, c'est ouais, ça c'est bien pour voir les différents points à explorer, parce que alors au début du jeu, tu sais pas encore trop, mais tu te rends compte assez rapidement que des trucs avec des formes un petit peu étranges, genre un lac en forme de dragon ou en forme de crâne, il y aura toujours quelque chose à explorer là-bas. Et mine de rien, juste en regardant la carte, tu peux par si t'es un minimum curieux, en fait, trouver assez facilement des choses à faire, des éléments cachés dans le jeu, et moi je trouve que c'est là où le monde est extrêmement bien fait dans Zelda, et de manière générale la façon de faire la progression. C'est que si t'es un minimum curieux et aventurier, en fait, absolument tous les éléments sur la carte, quand t'as monté à la tour, te donnent des indices sur les lieux à explorer, quels sont les endroits où il pourrait y avoir des secrets cachés, quoi.
Exactement, enfin oui, effectivement, si on est curieux, mais tu remarqueras que le jeu passe son temps à récompenser la curiosité,
Ah ben...
l'exploration, la découverte. Je pense qu'on a tous vécu cette expérience-là. En tout cas, sur le forum, c'est ce qui est ressorti le plus, c'est j'ai démarré le jeu, je me suis dit je vais à tel endroit, je fais une ligne droite, je bouge pas, je fais ça, et en fait tu te retrouves à faire 50 000 trucs annexes parce que ah, tout d'un coup tu vois un truc qui brille à gauche, tu vois un machin bizarre à droite, tu fais un petit détour pour éviter un camp ennemi, tu fais un petit détour pour... Et tu te retrouves finalement à... Enfin voilà, l'objectif qu'on te donne au départ, il est clair. Le premier objectif qu'on te donne, c'est abattre Ganon. Voilà.
Ah, techniquement, c'est le second.
Oui, techniquement c'est le second, mais je veux dire, on te dit, voilà, t'as fait ça, maintenant va battre le boss final. Et puis tu
Qui
te rends
est
compte
possible?
qu'il est possible de battre dès le départ, hein, pas de problème là-dessus. Sauf que...
Spoil!
J'ai débranché l'alarme,
Merde.
c'est un peu compliqué à gérer. Sauf que... enfin, personne fait ça, quoi. Personne n'a réussi à faire une ligne droite dans ce putain de jeu, t'es
Alors.
systématiquement obligé d'aller louvoyer à droite à gauche parce que
Ouais,
tu
bon.
vois des trucs intéressants.
Et d'ailleurs, D'ailleurs, pour revenir à cette histoire d'ailleurs d'observation, de curiosité, quand tu es en haut de la tour la toute première fois, le jeu te dit, parler du vieillard qui est dans l'intro, d'aller trouver les 4 sanctuaires pour pouvoir obtenir ce qui te permettra d'avancer dans le jeu. Et en fait, tu te rends compte que là, il t'explique justement toute leur idée avec ces tours qui consistent justement à être des points en hauteur pour pouvoir voir autour de toi, puisqu'en gros, tu es obligé de les repérer à la main, par la main, à l'œil pour le coup. Il y a aucune indication sur l'endroit où ils sont, faut que tu prennes ta loupe et que tu places des balises. Ça, c'est un truc que je trouve génial dans le jeu. C'est que quand tu es en mode jumelle, tu peux placer une balise sur un point qui t'intéresse. Généralement, le placement est super précis. Ça te met un point automatiquement sur ta carte et du coup, tu peux te repérer, tu peux t'indiquer un point important à aller. Et en gros, c'est ce que le jeu te demande de faire au début du jeu avec les 4 premiers sanctuaires.
Alors, tant qu'on est justement sur la carte et sur l'observation, rassurez-moi, on est tous, enfin, on joue tous en mode pro ici.
Non.
Oui. Non.
Ah. Parce que en vrai, au début, j'ai dû faire les petites premières dizaines d'heures sans le mode pro. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, ça va être avec la boussole en bas à droite, la boussole, la mini carte en bas à droite, une fois qu'on a découvert la zone, la température, le bruit qu'on fait, ainsi que la météo et le temps, parce qu'il y a aussi la météo et le temps qui passe du coup. C'est pas vraiment un spoil, tout le monde le sait.
Oui, non, c'est le HUD du jeu, enfin,
Voilà,
voilà, faut pas
faut
exagérer.
pas abuser. Et à partir du moment en fait où on met le mode pro, donc c'est-à-dire on n'a plus toutes ces infos, la seule info qu'on a c'est en haut à gauche notre barre de cœur, et après la stamina qui s'affiche lorsque l'on court ou lorsque l'on grimpe, on s'aperçoit qu'on observe beaucoup plus ce paysage en fait, parce qu'on va pas, enfin, par exemple si on a un objectif sur la carte, on va pas suivre bêtement l'objectif, même si on va regarder autour de nous, on va pas avoir une direction qui va être donnée. On va se donner un point, un repère dans le paysage où on va vouloir aller, même si c'est l'objectif qu'on s'est donné avant, juste la direction, et après on va vraiment en fait se fier à la manière dont le jeu a été conçu, et ça permet encore plus, à mon sens, et il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis-là, de profiter vraiment de la manière dont l'univers a été fait, parce que l'univers est hyper intelligent, en fait. C'est un open world réfléchi, et c'est tellement rare d'en voir un que ça vaut vraiment le coup, surtout que pour un open world où on peut escalader, où on peut grimper un peu partout, ça vaut vraiment le coup de se bouger pour pouvoir voir tout ce qu'il y a autour de nous.
Bah franchement, moi j'ai pas activé le mode pro parce que j'aime bien quand même avoir la minimap en dessous pour au minimum où je vais, avoir les informations comme le temps et compagnie, parce que c'est quand même utile à la progression. Mais j'ai pas ce sentiment de... Alors peut-être que je le fais peut-être pas autant que toi qui joues en mode pro, mais je trouve quand même que j'apprécie d'observer le paysage, d'être curieux sur les endroits où je vais. Après c'est vrai que je passe beaucoup de temps à afficher la grande carte pour voir à peu près des zones qui me semblent inexplorées. Mais moi, ça reste quand même des choses que j'aime bien avoir, bon, notamment parce que j'ai pas non plus aussi le temps de me paumer à l'infini, et que même si j'aime bien explorer, il y a aussi un moment où faut que je sache à peu près où je vais, quoi.
Après, c'est vrai que j'ai un peu peur, par exemple, pour les fans des jeux Ubisoft qui ont l'habitude de tout faire en ligne droite en suivant juste l'objectif, voire même le chemin lumineux face à eux.
Donc ça, c'est même pas, en fait, quel que soit le...
Mais d'ailleurs, c'est ça qui ça fait partie aussi des petites astuces. Je parlais des tours tout à l'heure, mais c'est vrai que tu peux mettre des balises, mais si tu regardes pas à travers ta jumelle...
Tu vois pas où elles sont.
Tu vois pas où elles sont. Hein. Tu marques un endroit, ça permet vraiment de le marquer sur la carte et de le marquer à la jumelle, mais c'est tout.
Ah, il apparaît sur la minimap quand même. Hein.
Il apparaît sur la minimap, on est d'accord, mais il apparaît pas sur ta vue. Quand tu marques un point dans un Assassin's Creed, ça te dit il est à 355 mètres et ça te dit exactement où il est, la direction qu'il faut prendre, et ainsi de suite. Quoi. C'est limite comme dans Perfect Dark Zero où t'as pas les flèches en bas pour aller te dire faut que tu prennes tel chemin. Quoi.
C'est ça.
Dans Perfect Dark Zero, il y a un truc qui m'a beaucoup impressionné, hein, c'est qu'il y avait une flèche qui m'indiquait l'objectif et il y avait un baril, ou je sais plus, une caisse, un machin, et en fait la flèche faisait le tour du baril. C'est comme si j'étais trop con pour me dire que j'allais pas faire le tour.
Ah mais c'est vrai, c'est ça. Hein.
Mais c'est voilà, le jeu te prend, quel que soit le mode de jeu dans lequel tu joues, finalement le jeu te prend absolument pas par la main. Et effectivement, ce que disait Drosgar, on te laisse te débrouiller. Et finalement, le joueur qui est récompensé, c'est celui qui va observer le mieux, c'est celui qui va explorer le mieux, c'est celui qui va le plus se laisser porter par le... Au bout d'un moment, je trouve qu'on acquiert pratiquement un sens de l'exploration. C'est-à-dire qu'on sait que pour aller à tel endroit, en ligne droite, ça va pas le faire. Et en réalité, il va falloir peut-être contourner par là, peut-être avancer par là, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est assez impressionnant en termes de game design, surtout dans un open world.
Ouais, et puis je trouve que... Alors, on a eu beaucoup de reproches comme quoi le jeu était vide et tout. Et je trouve que c'est quelque chose qui est totalement faux, en vrai. C'est que là où c'est très très bien fait, c'est qu'à peu près toutes les 30 secondes, toutes les minutes, quand tu te balades à pied... Tu as quelque chose à faire, tu as un camp de mobs à tuer, tu as les machins de la forêt, une petite énigme avec les machins de la forêt, tu peux tomber sur un sanctuaire. Et en fait, moi, c'est là où je trouve que ce panel est vraiment bien conçu, c'est que en fait, tu trouveras toujours des choses à faire, quel que soit l'endroit à quel tu vas. Donc, c'est ce que disait Drosgar tout à l'heure, c'est que ta capacité à explorer, à t'aventurer en dehors des sentiers battus est récompensée par le jeu, quoi qu'il arrive.
Oui, effectivement, c'est la capacité à se perdre sans se perdre, finalement, qui marche le mieux. Mais c'est vrai que parcourir les étendues à pied ou à cheval, ou dans d'autres types de locomotion... J'avais lu un article très intéressant sur je sais plus quel site web qui disait « Mais arrêtez de faire du fast travel, arrêtez de vous téléporter dans Breath of the Wild, parce que vous allez rater plein de trucs. » En réalité, vous allez vraiment, vraiment rater plein de trucs si vous téléportez dans tous les sens. Allez-y à pied, allez-y à cheval. Oui, ça va moins vite, mais vous allez voir que vous allez voir tout un tas de détails que vous n'aviez pas vu auparavant, parce que il n'y a pas de ligne droite dans ce jeu. Il y a des sentiers déjà balisés sur la carte qu'on peut suivre à pied ou à cheval. Il y a effectivement des chemins tout faits entre guillemets qui rejoignent les différents villages et les différents lieux intéressants.
Et même parfois, ces chemins sont. Je sais par exemple dans la forêt de. La forêt qui est au sud-est de la carte, donc la forêt tropicale, même là les chemins commencent déjà à être difficiles à suivre, c'est des zones où ben, les chemins, t'en as un, mais pas tant que ça en fait.
Ah oui, la forêt avec des petites ruines et tout.
Ouais, trop bien celle-là.
Ouais, c'est
toutes les zones sont bien.
Mais d'ailleurs, en parlant des chemins et des moyens de transport, on a des chevaux, on peut en capturer, tout le monde le sait aussi.
Oui, c'est bon.
Voilà.
C'est accepté.
Lorsque l'on est sur un cheval, ouais.
C'est des chevaux avec... Bah, déjà, faut prendre le temps de les capturer. Hein.
Et oui, c'est des apprivoiser.
Et c'est des chevaux avec des stats différentes. J'ai du pot, je tombais sur un qui était plutôt bon dès le début du jeu, donc je montre que celui-là, mais c'est pas Epona en fait. T'as pas une mécanique genre trouver un cheval avec Epona. Non,
tu, sauf, tu, dans la... tu peux l'appeler Epona si tu veux. Moi, je l'ai appelé Poney Mort.
Ouais, faut être respecté quand même.
Voilà, Poney Mort, et puis le deuxième, je l'appelais Poney Mort 2. Puis le troisième, je l'appelais Poney Mort 3. Je pense que je vais continuer comme ça.
Mais personne n'a de Smash Bros, j'imagine.
Si, moi je l'ai, mais j'ai jamais vraiment essayé de l'avoir Epona à la place du jeu mon cheval, parce que j'aime bien mon cheval, moi.
Bah, moi, je m'en sers pas souvent du cheval, parce qu'en fait, c'est pas très pratique, je trouve, d'aller dans un relais, de,
si.
D'aller chercher et tout.
Enfin... Ah, moi, je m'en sers énormément du cheval. Parce que justement, quand faut parcourir les trajets à pied et que t'as envie d'explorer un peu la map, c'est vachement pratique. Et,
Bah, ça dépend des zones. Enfin, alors pareil, c'est pas vraiment du spoil, mais il y a quand même beaucoup de zones très escarpées, très montagneuses, dans lesquelles le cheval il sert pas à grand chose. Alors après, c'est peut-être parce que moi j'ai parcouru que ces étendues-là, parce que je pense ce que je trouve étonnant, c'est qu'au bout de 4 heures de jeu, vous pouvez prendre 10 joueurs, il y a personne qui a découvert les mêmes morceaux de cartes et les mêmes trucs.
C'est ça.
C'est impressionnant à quel point les gens sont attirés par des choses complètement différentes. Personnellement, j'ai commencé par une zone qui était tout au sud, désertique. J'ai pas du tout été faire le truc qui était le plus évident pour tout le monde, qui était d'aller faire un truc, une zone avec des lacs.
Il y en a beaucoup qui vont à l'est, justement.
En fait, c'est parce qu'au début du jeu, le mec te dit hey, va par là, enfin, va battre Ganon, et assez rapidement, on te dit aussi ce serait cool que t'ailles voir Impa au village Kokoriko.
Oui, mais même moi, j'ai fait ça, tu veux, j'ai été voir machin au village Kokoriko, puis après, je me suis dit bon, c'est quoi le truc suivant?
Je crois que j'ai mis 4 jours à l'attendre, un village Cocorico. Je passais mon temps à explorer la région, et même juste la région à proximité du Mont Géminé, où il y a le village.
Juste à proximité immédiate, quoi. Tu passes un temps fou à ça. Et pareil, le coup des relais pour les chevaux, il y en a un qui est sur le chemin de Cocorico, justement, avec des chevaux capturés, avec une quête secondaire immédiatement qui te permet de dire voilà comment on capture un cheval. Et tu vois, je trouve que le langage du jeu qui permet aux joueurs d'aller vraiment découvrir les mécaniques de jeu par lui-même mais ultra bien foutu. Enfin, c'est de la folie à ce niveau-là.
Et puis tu peux rajouter un détail aussi, c'est qu'au niveau des quêtes annexes, donc il y a quasiment pas d'indication genre va quand on dit va chercher quelque chose, à moins qu'on te donne vraiment un nom de zone, le jeu va très très rarement indiquer un point sur la carte. Souvent, le point lié à la quête, ce sera le point où se trouve le PNJ qui t'a donné la quête. Et il va falloir que tu te renseignes auprès du PNJ et d'autres personnages pour savoir où se trouve ton objectif.
Toujours en mode démerdon zizish, quoi.
Mais c'est ça, et en fait, tu te rends compte que tu peux te dire à ce moment-là, tu vas cumuler les quêtes, tu vas jamais avancer. Et moi, je me suis assez rapidement rendu compte que finalement, c'est des quêtes qui sont assez faciles à finir quand tu prends le temps d'aller parler aux gens, d'observer ta carte pour avoir le nom des lieux et ce genre de choses.
Bah, en fait, c'est presque un jeu qui exige qu'on prenne le temps. Qui exige pour progresser d'y aller doucement, d'y aller sereinement. Je pense qu'on a tous vécu la même chose. Il y a un certain nombre d'ennemis dans le jeu qui sont extrêmement difficiles à battre. Quand on ne sait pas comment ils réagissent, quand on ne connaît pas parfaitement leur pattern, et même une fois qu'on les connaît, on prend en général des bonnes dérouillées. Hein. Donc le jeu, en termes de difficulté, pardonne pas, il te prend absolument pas par la main, et je veux dire, je crois que c'est un des Zelda sur lequel j'ai enchaîné un nombre de game over absolument hallucinant sur les 2 ou 3 premières heures de jeu. C'est jamais punitif, parce que t'as des sauvegardes, t'as vraiment des points de sauvegarde très très réguliers.
Les sauvegardes automatiques sont très très régulières.
C'est vraiment, là-dessus, les mecs, ils ont vraiment été réglo, donc c'est une des comparaisons qui avait été faite dans les premiers jours, c'était, Legend of Zelda Dark Souls, mais ça a repris quelques mécaniques de Dark Souls, au sens où c'est vrai que tu crèves très facilement, les ennemis te font pas de cadeaux, t'as énormément d'ennemis qui te one-shot, point.
Mais derrière, t'es bien équipé pour les affronter aussi, t'as énormément de choses que tu peux faire.
Ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que finalement, même quand t'es totalement en slibar, avec quasiment pas d'équipement, ou les équipements vraiment de base que tu trouves dans la première zone, tu peux aller te friter contre les pires ennemis du jeu, si t'as la technique, ça marche. Donc c'est pas ton avatar qui progresse, c'est ton... c'est toi qui progresse.
Moi, ça m'a rappelé, pas aussi poussé, mais Wonderful 101, où en fait, dans le jeu, tu avais vraiment beaucoup d'ennemis qui avaient des patterns assez spéciaux. Quand tu utilisais le bon pouvoir Wonderful, tu pouvais vraiment les battre beaucoup plus facilement. Je pensais aux tortues de Wonderful 101, qui en fait, donc tu pouvais les battre avec le marteau, c'était le truc de base. Et en fait, tu découvrais qu'ils ont une attaque où ils essaient de t'aplatir en soulevant leurs deux pattes qui sont sur les côtés. Et en fait, si tu faisais le pudding à ce moment-là, tu pouvais les renverser et les défoncer. Et dans Zelda, il y a quelques ennemis comme ça, un petit peu plus forts, où tu découvres que tu peux faire aussi ce genre de choses qui te facilitent grandement la vie. Genre typiquement, il y en a un, ben tu lui tires une flèche dans la tête, et en fait il se retrouve KO, et là il est gratuit pour que tu lui mettes quelques coups, alors qu'en vrai c'est un mec qui, si tu combats normalement, va enchaîner les coups, fait très très mal, et du coup est extrêmement difficile à battre.
Oui, effectivement, il y a toute une question de pattern learning, vraiment d'apprentissage des schémas des ennemis qui changent en fonction des ennemis. C'est rien de très compliqué, c'est rien de révolutionnaire. Je pense qu'en termes de... On parlait de la profondeur du système de combat, on va en reparler un petit peu après. Je trouve pas qu'il soit particulièrement... Enfin, je trouve pas que le système de combat soit particulièrement ultra profond, tout ça, mais il a des subtilités qui, quand on les maîtrise, permettent vraiment de gagner énormément de temps.
En tout cas, c'est pas Bayonetta, c'est sûr, mais déjà, t'as des esquives parfaites, une parade parfaite, ce qui existait très peu dans les anciens Zelda, ou en tout cas qui n'était pas aussi mis en avant.
Bah, dans Wind Waker, t'avais le truc qui permettait, dans certains cas, d'aller faire le tour complet de l'ennemi pour aller le taper par derrière. Enfin, tu vois, pour moi, c'est Wind Waker qui avait commencé à introduire des mécaniques de combat un petit peu plus poussées. C'est vrai qu'Ocarina of Time ou Majora's Mask, qui sont un petit peu des jeux jumeaux, finalement, il n'y avait pas grand-chose, je dirais, bouclier, épée...
C'était très simple, hein, dans ces jeux-là.
C'était vraiment extrêmement basique, la plupart des ennemis, t'avais quelques subtilités, genre effectivement, les chauves-souris, si t'allais les taper avec un truc en bois, bah ça prenait feu, bon, ok, très bien, si c'était des chauves-souris de feu... Bah, tu vois, t'avais pas de difficultés particulières, les ennemis étaient placés là, comme finalement dans des jeux en 2D, dans lesquels bah, ils sont là pour te faire chier, mais c'est pas, y a pas véritablement de... comment dire... De mécanique très complexe autour des ennemis. Là, je trouve que la mécanique autour des ennemis est beaucoup, beaucoup plus complexe.
Ah oui, non, mais en plus, t'as...
C'est à la fois très simple et très compliqué, c'est ça que je trouve
en
assez
fait,
étonnant.
T'as des bases assez simples, t'as très peu de combos, des attaques assez basiques, mais derrière, tu vas avoir beaucoup de possibilités. Déjà, t'as trois types d'armes, enfin, en grosso merdo, t'as trois types d'armes, t'as les armes à une main, où tu peux utiliser un bouclier pour faire une parade, les armes à deux mains, enfin, les armes longues à deux mains, qui font souvent très mal mais qui sont beaucoup plus lentes, et t'as les lances qui en fait sont très utiles pour garder les mecs à distance par exemple. Et déjà ça change la donne, parce qu'en fonction de l'armement qu'a l'ennemi et du type d'ennemi, certaines armes sont quand même vachement plus pratiques. Typiquement les lisses à faux, moi j'utilise quasiment pas les armes à deux mains, je vais plus y aller à l'épée basique ou à la lance.
Alors qu'un ennemi assez grand, ça va être intéressant d'utiliser une arme à deux mains pour essayer de le faire tomber.
Mais souvent d'ailleurs ces ennemis là, ils ont des points faibles qu'il faut viser pour pouvoir les abattre plus facilement.
Oui, et puis tu peux aussi utiliser les pouvoirs, aussi utiliser la physique du jeu ou les pouvoirs donnés par la tablette pour s'en débarrasser des ennemis.
Effectivement, il y a tout un tas de trucs à voir là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause maintenant, parce que je pense qu'on a déjà balayé un certain nombre de sujets.
Moult sujets.
On va revenir, donc juste après la pause, on reviendra sur les questions qui sont intéressantes aussi, hein, de physique, d'environnement. Il y a vraiment énormément de choses à dire, et c'est pareil, un peu comme pour les combats finalement, c'est pas des choses très complexes, mais c'est des choses qui sont très bien faites. C'est ce qu'on verra tout de suite après. Donc on va s'écouter un petit extrait de la bande originale de Breath of the Wild, histoire de faire original. J'ai choisi le thème des sanctuaires,
parce que très beau thème.
C'est un thème très joli, très, très mystique, très, très particulier, qu'on entend quand même relativement souvent dans le jeu, qui est très agréable à écouter. Ça dure un tout petit peu plus de 4 minutes, on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Et nous voilà de retour.
Tour sur lequel il faut grimper pour trouver tout terrain.
Putain, mais...
Tu l'avais préparé, celle-là.
Ouais.
C'est de la triche. Donc pendant la pause, on a discuté un petit peu, notamment de la physique, et on se disait que... que cette physique dans ce jeu, elle était quand même ouf. Et j'aimerais qu'Antix nous redise ce qu'il nous a dit à propos du moteur du jeu, du moteur entre guillemets physique.
Alors en fait, je conseille à beaucoup de monde d'aller voir la conférence, la Game Developer Conference qui est disponible sur YouTube pour ce jeu-là. Donc j'en avais déjà parlé il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines pour le prototype en 2D du jeu. Donc tous les concepts de Breath of the Wild ont été faits avec un moteur avec les assets du premier Zelda. Et donc en fait, un peu plus loin dans cette conférence, donc on a eu le directeur technique du jeu qui est venu nous expliquer la façon dont la physique a été pensée dans ce Zelda-là. On est habitué dans Zelda souvent à avoir des physiques assez basiques, on va dire, souvent les éléments...
assez rigides, voilà. T'as pas beaucoup d'interactions.
C'est très mécanique, alors à la fois ça rend le truc très facile à comprendre et très jeu, mais au final ça limite beaucoup les possibilités. Et pour celui-là, les gars ont vraiment poussé un moteur physique butin de chez eux. Et ils ont ajouté à ça, en fait, ce qu'ils appellent un moteur chimique, qui n'est pas vraiment de la vraie chimie, mais en fait qui régit toutes les règles liées aux interactions entre les éléments et les éléments entre les éléments, le feu, la glace, le vent,
l'électricité, etc.
Et les éléments du décor, ainsi que les éléments du décor entre eux ou les éléments type feu entre eux aussi. Et comme ils ont réaliser cette partie là en fait, c'est pour ça que dans le jeu on a des interactions qui sont très basiques, très simples, mais qui du coup peuvent vraiment être déclinées sur des variantes à l'infini pour donner la richesse qu'on a dans le jeu actuel.
Voilà, parce qu'il faut dire que donc dès le tout début du jeu, en fait, finalement la zone qui sert en gros de zone tutoriel, même si on a vu que c'était pas vraiment un tutoriel, c'est très guidé par le gameplay et au final on te tient pas du tout par la main. T'as pas un seul panneau à un moment qui te dit pour faire ça, utilisez le bouton B. C'est voilà, le jeu te lâche un peu en mode tryhard, mais tu récupères les pouvoirs principaux entre guillemets, ou quasiment tous les pouvoirs du jeu, tu les récupères dès les 2 premières heures, on va dire,
c'est les 4 pouvoirs du jeu qui seront les bombes, la cryo qui permet de faire des piliers de glace dans l'eau, c'est magnéto,
le police qui est l'aimant. Donc, et Sylétis, qui est le truc qui permet de figer dans le temps certains objets.
Donc en fait voilà, sur les 3 c'est des choses qu'on connaît déjà dans Zelda, hein, mine de rien. Parce que les bombes, il n'y a rien de plus classique, sauf que maintenant on peut les déclencher à distance. C'est probablement le moins original et le moins amusant des 4.
C'est un temps, parce qu'il y a quand même une bombe carrée, parce que les mecs se sont aussi rendu compte que la physique était un peu relou et que les bombes rondes, quand on les lâchait, elles roulaient partout et c'était galère. Donc la bombe carrée, c'est la bombe qui roule pas, et moi je les remercie pour ça, d'avoir pensé aux gens que ça galère d'avoir des bombes rondes.
C'est ça. Donc le magnétisme, on a déjà eu des trucs de magnétisme dans les Zelda 2D. Beaucoup moins en 3D d'ailleurs, donc c'est vraiment la première fois où ils ont poussé.
T'en avais pas mal dans Twilight Princess, parce que t'avais les bottes d'acier, les bottes magnétiques qui te permettaient justement de grimper au plafond et tout ça, mais ça restait des mécaniques assez limitées.
Pareil pour tout ce qui est lié à ton personnage, là c'est carrément les éléments du décor en fait.
Et pareil pour tout ce qui est lié à l'électricité ou au feu, c'est pas la première fois qu'on le voit dans un Zelda, parce que dans Wind Waker, les chouchous électriques, si tu leur tapais dessus avec une épée en ferraille, tu te faisais électrocuter.
Oui, globalement, c'est des règles que tu connais déjà en Zelda
voilà.
En fait.
Il n'y a rien de très original, c'est juste que tout d'un coup, au lieu de te dire. Je me rappelle d'un truc qui m'a moi frappé, c'est dans Ocarina of Time, quand tu vas dans le volcan. Je sais plus comment il s'appelle, le volcan de la montagne bidule là.
La montagne de la mort.
Voilà, la montagne de la mort, ouais. Tu vas dans le volcan, on te dit il fait beaucoup trop chaud ici, tu vas perdre des cœurs. C'est la seule zone dans le jeu où on te dit ça finalement. Et si t'as pas la tunique qui va bien, en réalité il fait trop chaud et tu vas perdre des cœurs. Bon, ok. Là, les mecs se sont démerdés pour qu'il y ait plusieurs zones dans lesquelles il fait trop chaud. Ça peut être un volcan, ça peut être un désert, c'est pas toujours la même température, il y a des températures extrêmes, il y a des températures... Donc c'est pas une mécanique totalement inconnue, c'est une mécanique qu'on connaît très bien. Simplement avant elle était totalement scriptée, elle était totalement délimitée par une zone bien précise du jeu, là maintenant c'est finalement ça peut arriver quasiment n'importe où.
Oui, ça a vraiment beaucoup de possibilités, et puis même par exemple, typiquement dans les zones volcaniques, alors je ne suis pas encore arrivé mais...
C'est bien galère.
Voilà.
C'est bien galère ça.
Les armes en bois elles prennent feu.
Bah oui, logique.
Donc ça te force aussi à te préparer derrière, aussi, à partir avec des armes en métal.
Voilà, pareil, sur le tout début du jeu, il y a un des sanctuaires qu'on doit découvrir, dans lequel on découvre le pouvoir de glace. Donc pareil, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est vraiment les 2 premières heures de jeu. il est dans une zone froide. Je crois, dans une zone froide, c'est-à-dire au sens où si Link y va juste avec sa petite laine et son slip de départ de début de jeu, ben, il caille sa race, quoi. Je crois que j'ai vu au moins 10 ou 15 solutions différentes pour arriver jusqu'à ce temple-là sans crever.
En tête, j'en ai 4-5 là, différentes.
Rien qu'en tête, j'en ai 4-5, mais je vois le... Enfin, moi, mon gamin a commencé à y jouer un petit peu. Je me suis dit, c'est pas bien de donner de la drogue au môme si tôt, tu vois, mais... non, mais c'est pas
le
bien, faut le dire, c'est la coutume. Non, mais franchement, il est bien accroché, parce que c'est vrai que ce qui lui, il trouve ouf dans ce jeu-là, ce que lui, il trouve vachement bien, c'est que finalement, tout ce qu'il essaye, ça fonctionne. C'est le gamin, il pêche à la bombe, parce qu'il a vu que ça marchait.
Ah, je fais aussi ça.
Il abat des arbres à la bombe, parce qu'il a vu que ça marchait. Il fout le feu au cul des gobelins parce qu'il a vu que ça marchait. Il teste des trucs, et je veux dire, c'est vraiment un truc de môme, mais quand t'es dans un jeu vidéo, que t'es un môme, tu vas tester tout un tas de trucs pour voir si ça marche. Lui, il fait ça, sauf que bah, nous, quand on était petits, sur les jeux qu'on avait, bah, en général, on testait des trucs et ça marchait à peu près jamais. Parce qu'on avait pas vraiment de moteur physique, de moteur chimique, ou je sais pas quoi. Lui, il teste des trucs et ça marche. Donc, il est dans l'émerveillement permanent dans lequel il va arriver à se dire, tiens, bah, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. Oh, et à chaque fois, ça fonctionne, quoi.
Ceci dit, moi aussi, hein, quand je trouve des astuces pour contourner certaines énigmes ou abattre les mecs plus facilement, bah, typiquement, on en parlait en off, la foudre dans le jeu, donc tout ce qui est en métal fait paratonnerre, donc toutes tes armes. Et,
bah, sauf si t'as des armes en bois.
Sauf si t'as des armes en bois, donc toutes les armes en métal font paratonnerre, je pense que c'est même le cas de l'armure.
Les boucliers aussi.
Voilà, les boucliers.
Effectivement, c'est le cas de ta tenue si elle a beaucoup trop de métal sur elle, donc typiquement une armure ou...
Tout, même les arcs.
Même les arcs.
Quand même. Tant qu'il y a du métal dedans, ça peut faire paratonnerre. Mais du coup, ça ouvre aussi des possibilités d'utiliser la foudre pour combattre les ennemis, parce que moi, un truc que j'avais fait, c'est que je vais repérer pendant un orage un petit lézard-flot désarmé. J'ai posé mon épée en métal au sol, j'ai vu qu'elle a commencé à tirer la foudre, j'ai vu le lézard-flot le prendre, je me suis barré en courant. Et il a explosé.
C'est énorme, ce genre de truc-là, c'est juste énorme.
Et en plus, ça vaut le shot, hein.
Tu peux aller encore plus loin en prenant une arme en métal pendant la foudre et en la mettant au milieu d'un groupe d'ennemis avec le magnétisme. Voilà, je fais ça tout à l'heure.
Oh, pas mal ça.
Mais tu vois, c'est le genre de truc qui est assez ouf. C'est pas grand-chose. L'électricité, c'est un élément qui est connu, le magnétisme, c'est un élément qui est connu, mais c'est simplement la combinaison de l'ensemble de manière finalement totalement émergente. Ce que je trouve hallucinant, moi, c'est à quel point t'as du gameplay émergent dans tous les coins. T'as des mecs qui inventent des méthodes qui, je suis certain, n'avaient jamais été pensées par quiconque.
Ah non, mais tu peux... En plus, donc là, on a parlé de ça, mais il y a aussi celui qui arrête le temps. Là, le potentiel, déjà, pour la partie speedrun est incroyable, puisque... qu'avec ça, tu peux te permettre de sauter 2-3 trucs dans la zone de départ, pour aller plus vite au boss.
Bah, je pense que ça, on peut le dire, parce que vu que c'est la zone de départ... Parce que je pense qu'on a la même chose en tête, quand même.
Oui,
on a la même chose en tête, mais... non, mais voilà...
C'est juste la physique.
Je redonne le petit exemple que je donnais tout à l'heure, que j'ai eu la chance de pouvoir capturer en vidéo, donc j'étais assez content de le faire. Comment dire, j'ai des boules qui sont dans l'eau, et des boules qui étaient sensibles, alors pas au magnétisme, donc je pouvais pas, voilà, il fallait aller les mettre dans un panier qui était hors de l'eau. En gros, tu joues au basket, c'est de la physique, hein. Et donc la résolution normale de l'énigme, c'était en gros d'aller trouver un élément en métal pour soulever la boule pour aller la mettre dans le panier. Je résume un petit peu en gros. Et moi, comme j'ai pas vu l'élément en métal, en fait, ça m'est pas venu à l'idée. Voilà. Donc j'ai figé la boule dans le temps, j'ai balancé une bombe à côté, et quand la bombe a explosé, je l'ai fait exploser au bon moment, ben, elle a donc projeté la boule en question qui était figée dans le temps s'est retrouvée avec une énergie cinétique accumulée énorme, d'où le nom cinétis, hein, d'ailleurs, quand on fige un truc dans le temps, lui tape dessus, il accumule l'énergie cinétique. Donc elle s'est retrouvée avec une énergie cinétique énorme, elle est partie en l'air, et elle est retombée dans le panier. Alors j'ai eu un peu de chance, mais voilà, ça fait partie des résolutions d'énigmes où je suis certain que les développeurs avaient pas forcément prévu ça, mais le fait est, tu essayes, ça marche. Et on a eu un autre exemple de quelqu'un qui avait complètement baisé un temple comme ça, c'est-à-dire au lieu d'aller ouvrir la porte, il s'est dit « je vais passer par-dessus ». Et donc c'était à peu près le même genre de principe, c'est d'utiliser cinétis et une bombe, et donc d'aller poser une bombe, d'aller figer un tonneau au-dessus de la bombe avec cinétis, d'aller monter sur le tonneau, la bombe explose, la bombe explose, ça accumule de l'énergie cinétique en hauteur vers le tonneau, le mec monte sur le tonneau monte en l'air, il fait un coup de paravoile, et il passe par-dessus la grille. C'est juste génial.
C'est pas mal du tout. Moi,
c'est juste génial.
J'ai fait un truc comme...
Tout à l'heure, le gamin, pour aller à ce temple glacé, il s'est dit « je passe pas par la zone froide, je fais le tour ». Je fais le tour parce qu'il fait trop froid. J'y avais absolument pas pensé. Et le gamin a fait tout le tour en se disant « Je suis sûr qu'il y a un rocher sur lequel je peux grimper ou je passerai pas par la zone froide. » Et le fait est, il l'a fait. C'est juste ouf, parce que je n'y avais absolument pas pensé. J'ai vu personne d'autre y penser, j'ai vu tout un tas de gens utiliser des torches pour se réchauffer, allumer des feux, manger des recettes, machin. Il y a une quantité énorme de possibilités pour le faire. Le gamin, il s'est dit « J'en ai rien à foutre, je contourne la zone froide, j'ai pas envie d'y aller. »
Après, le seul problème, du coup, c'est que ton gamin, il est en train d'être habitué à avoir des bonnes mécaniques de jeu qui réagissent à tout ce qu'il fait. Et dès qu'il passera à un autre jeu, soit plus ancien, soit moins bien fait, entre guillemets, il va être perdu.
Exactement, mais moi je me demande comment un certain nombre... Enfin, il y a des... Je pense qu'il y a des... J'avais une discussion très intéressante avec Cyrard sur le fait que tous les Mario Kart rendaient les Mario Kart... Tout Mario Kart nouveau rendait les Mario Kart précédents obsolètes. Parce que ça raffinait à chaque fois tellement la formule. C'est discutable. Mais le fait est... Une fois que t'as joué à Mario Kart 64, c'est compliqué de revenir à Super Mario Kart parce que t'as une plus de souplesse, plus de machin. Alors, je dis pas, il y a des gens qui sont restés sur Super Mario Kart et qui sont contentes, et je peux pas leur en vouloir.
Après, Double Dash, tu reviens facilement à Mario Kart 64, c'est un bien meilleur jeu.
Bah voilà, mais
Alors déjà, on va commencer par se calmer, s'il vous plaît. Merci.
Mais c'est pas le sujet, on parle de Zelda.
Non mais voilà, mais c'est juste pour dire, il y a certains Zelda, je pense que ça va être compliqué d'y revenir parce que justement.
Ah, moi je me c'est vois mal rejouer à Skyward Sword à l'heure actuelle.
Bah c'est triste parce que je le trouvais très bien moi Skyward Sword, mais du coup, c'est vrai que maintenant il va être un peu plus compliqué quoi.
Mais en fait, ils ont tellement cassé les codes du Zelda et ils l'ont tellement bien fait. En fait, ils ont renouvelé la licence.
Oui, c'est ça, ils ont à la fois déconstruit certains codes et joué avec d'autres, ce qui était quand même très malin.
Ce qui est fascinant avec ce jeu, c'est à chaque fois que je le parcours, je me dis, putain, je joue à Zelda, mais ça ressemble pas à Zelda, mais c'est quand même Zelda, quoi. Et c'est vrai, je pense que c'est le genre de jeu qui était quand même très dur à faire dans le contexte actuel, encore plus pour Nintendo, qui est un peu à une époque, peut-être pas maintenant, où il se repose beaucoup sur les acquis de ses anciennes licences. Et tu joues à Zelda, moi, franchement je pense que c'est un rêve de gosse aussi, hein, parce que c'est des étendues sauvages à parcourir, t'as énormément de liberté d'action et de mouvement.
Cette sensation de découverte que tu avais peut-être avec le premier Zelda sur NES, dans lequel t'avais à chaque tableau il y a un secret, c'est pas évident de les trouver tous, il fallait que t'ailles...
Pas à Zelda sur NES, moi j'ai la sensation de revivre ce que j'ai découvert quand j'ai joué à Link's Awakening pour la première fois. C'est-à-dire qu'avant Link's Awakening, moi je connaissais surtout les jeux de plateforme en 2D, linéaire, tu vas d'un point A à un point B, fin du niveau, bam, tu passes au suivant. Et ce Zelda, ça a été la première fois que j'ai découvert un univers, une carte ouverte, complète, cohérente. Le monde est entier dans le jeu. Et j'avais pas ressenti ça en fait, jusqu'à Breath of the Wild à mon goût.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu t'as retrouvé finalement ce plaisir de la découverte et du monde. Gigantesque dans lequel tu peux voir plein de choses.
Ouais, c'est ça, c'est comme si je redécouvrais le monde ouvert, alors qu'en fait j'ai découvert il y a 20 ans en jouant à un jeu sur Game Boy, quoi. Ce que je trouve assez incroyable comme sensation, ça m'avait vraiment beaucoup manqué, quoi.
Ce qui me fait marrer aussi, c'est à quel point finalement Nintendo va peut-être arriver à redéfinir pratiquement un standard pour l'open world, c'est-à-dire l'open world, ça fait quand même pas 10 ans on fait des jeux en open world, voire même un petit peu plus longtemps.
Bah, en vrai, si on se fie à la sortie du premier Zelda, qui est globalement un open world, ça fait des années. Mais la recette actuelle, on va dire, elle est très basée sur ce qu'ont fait les GTA à partir de la PlayStation 2, en fait.
Et voilà, t'avais ça, t'as Assassin's Creed qui a rajouté un certain nombre, une grammaire, on va dire, de l'open world, notamment les hauteurs, les points d'intérêt, les choses comme ça, donc il y a des choses qui ont été rajoutées. Mais finalement, l'open world moderne, entre guillemets, il était presque chiant, il était presque plan-plan, il était presque... On se disait qu'on avait fait un peu le tour du truc, et tout d'un coup, Nintendo débarque, ils réinventent rien, mais ils mettent une poutre à tout le monde.
En fait, ce que fait très bien Breath of the Wild, c'est qu'il reprend les acquis et les points forts de ce qui a été fait chez les autres. Bon, il rajoute aussi quelques petites choses, mais surtout, il arrive à combiner des éléments que tu avais dans les tas de jeux. Enfin, le minage à la Minecraft, la verticalité d'Assassin's Creed, l'étendue d'un GTA, la liberté d'un Skyrim, et même des éléments un peu inédits, genre typiquement la combinaison des éléments, moi ça me fait penser à des mini-jeux en Flash ou des trucs d'alchimie où ils demandaient de combiner des éléments pour obtenir de nouveaux éléments qu'il fallait combiner à nouveau entre eux. Ça me fait un peu penser à ça. Mais ce Zelda a la puissance de réussir à mettre tout ça dans un seul jeu, de rendre tout extrêmement cohérent, tout se complète, et moi c'est ça que je trouve que ce Zelda est une réussite, en fait, c'est il est vraiment ambitieux et il le fait vraiment jusqu'au bout, quoi.
Oui, effectivement. Il y a Zergy qui voulait faire une remarque tout à l'heure, on l'a coupé.
Ouais, désolé.
Zergy ?
Allô ?
Oui ?
Écoute pas Zergy, s'il te plaît.
Zergy. Je vois pas que je voulais parler.
Ah, d'accord, j'ai cru t'entendre tout à l'heure.
En fait, j'ai fait ma remarque tout à l'heure, mais...
D'accord, non, excuse-moi, je pensais que tu voulais dire quelque chose, j'ai cru qu'on t'avait interrompu.
Okay.
Donc oui, je suis d'accord, ce qui est impressionnant, finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Enfin, il y a quelques trucs, mais je veux dire... Il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire dans ce jeu, mais tout ce qui est intégré dedans est parfaitement intégré, et surtout, ça a une cohérence globale qui est, je trouve, complètement hallucinante. Enfin, moi, je n'ai pas rencontré de dissonance cognitive. Je suis beaucoup trop fatigué. De moments où je me suis dit, non, mais là, ça déconne complètement. Alors que ça, dans un Assassin's Creed, ça t'arrive souvent de te dire...
Moment dans le jeu... Je trouve un petit peu raté, c'est les sanctuaires où les énigmes utilisent le gyroscope de la console. Parce que j'ai plus l'impression.
Tu trouves que c'est un peu forcé, c'est ça ?
Ben, j'aime bien l'utilisation du gyroscope dans le jeu pour viser, c'est comme dans Splatoon, en fait, tu utilises le stick droit pour faire des grands mouvements et t'affines avec le gyroscope, ça marche plutôt bien. Mais ces énigmes au gyroscope à base de bouger des plateaux et compagnie, il y a des fois où t'as l'impression de te battre plus contre le hardware, contre l'énigme en fait, et le pire ça arrive quand tu es en mode portable, il y a certains animes de gyroscope qui sont globalement infaisables en fait. Tu dois tellement tourner le truc, parfois tu dois retourner la console pour que ça fonctionne, que ben tu peux pas le faire en mode portable en fait.
Puis en plus dans le métro t'as l'air con.
En plus, et donc c'est là où je suis content que le jeu reste quand même plutôt ouvert, parce que tout à l'heure j'ai réussi à en gruger une, j'avais pas envie de faire le gyroscope, j'ai vu que en fait fallait pousser un boulet en pierre avec une boule. Et pour pousser la boule, il fallait utiliser le marteau. Bon, j'ai vu que la boule était en métal, j'ai mis le cinétisme sur la pierre, et j'ai tapé dessus avec la boule en métal en utilisant le magnétisme. Et du coup, avec la force cinétique, ben, ça a fait la même chose.
En fait,
à faire un truc.
Voilà, si ça te galère. Si les mecs ont pensé, on te dit, voilà,
je pense que j'ai mis moins de temps à le faire comme ça qu'à le faire avec le gyroscope.
Moi, j'aime bien le côté, la résolution de l'énigme canonique, c'est ça. Hein. Et puis toi, t'es là, genre, vas-y, j'en ai rien à branler, il y a de la physique dans le jeu, j'en profite, quoi. C'est amusant à quel point. Enfin, je pense que c'est arrivé à absolument tout le monde, ça aussi. De pas trouver du premier coup ou de galérer sur un truc et puis finalement de se rendre compte que bah il suffit d'aller faire un truc un peu au pif et finalement bah avec un peu de chance ça passe quoi.
Bah c'est ça où je trouve la liberté de ce jeu va plus loin que juste la liberté d'exploration d'un monde extraordinaire, c'est qu'on t'offre en plus les possibilités de faire ce que tu veux. Parce qu'on a parlé de la possibilité de grimper un peu partout, mais mine de rien on n'y pense pas, ça change vraiment tout, parce que Assassin's Creed tu peux grimper que sur certaines surfaces,
sur certains bâtiments, certains éléments, sur des chemins pré-rendus, enfin c'est, oui, c'est un peu...
Dans Zelda, toute la carte tu peux grimper sauf dans les sanctuaires et les donjons, parce que sinon en fait tu pourrais tous les gruger et ce serait pas très drôle, et pour descendre on te file un truc qui te permet de planer. Voilà, donc déjà là toute l'exploration verticale elle est réglée en 30 secondes.
En deux mécaniques de jeu finalement extrêmement simples d'ailleurs, hein, c'est effectivement grimper, voler.
Voilà, c'est globalement les mécaniques les plus simples du jeu, en vrai.
Et en vrai, c'est effectivement les mécaniques les plus simples du jeu. Je sais pas si vous avez vu, quand on parle de physique et tout ça, je sais pas si vous avez vu la vidéo qui comparait la physique dans Breath of the Wild et la physique dans Horizon Pas d'Aube.
Oui, si, j'ai vu les deux vidéos. Ouais, sinon, du coup, rien à voir, enfin, l'un avec l'autre.
Voilà. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que finalement... C'est une petite pique à Sony, hein. Je suis désolé Sony si tu nous écoutes, big up. J'ai l'impression que la concurrence essaye systématiquement de renforcer l'immersion en faisant des choses de plus en plus belles. C'est vrai que Horizon est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus abouti techniquement que Breath of the Wild.
Oh bah, Breath of the Wild, on va pas se mentir, il est beau, mais...
C'est pas
ça ramouille du cul des fois.
Ça ramouille du cul des fois.
Ça ramouille beaucoup, ça pop, t'as les textures un petit peu dégueulasses au loin.
Voilà, c'est pas le jeu qui est techniquement le plus abouti du monde, on est complètement d'accord.
T'as une très jolie direction artistique, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les PNJ, les éléments du décor, les monstres, les animations, enfin, faire du surf sur son pied, c'est quand même assez génial, hein. On va pas se mentir, mais on va pas se mentir, enfin la partie technique, voilà. C'est dommage pour un jeu Nintendo qui nous avait habitué à mieux, même sur,
donc,
même sur Wii U, quoi.
Tout à fait, mais sur PS4 t'as Horizon qui est sorti à peu près en même temps, qui est magnifique, avec des textures super fines, avec du bump mapping dans tous les coins, avec des effets de HDR, avec des machins, mais qui finalement est nettement moins immersif parce que il n'y a aucun décor interactif, la physique est à chier. Voilà, il se passe rien.
Alors que toujours des moyens de te bloquer en fait dans le.
Toujours des moyens de te bloquer. Finalement, il y a pas grand chose. Alors que Breath of the Wild, bah, techniquement ouais, c'est pas une bombe. Sauf que bah, quand tu marches dans l'herbe, l'herbe se plie sous toi systématiquement. Quand tu essayes d'y foutre le feu, bah ça marche. Quand tu lâches un caillou, il va tomber d'une pente s'il y a une pente. Je trouve que la physique, c'est ce moteur physique et ce moteur chimique. Contribue énormément plus à l'immersion du joueur que n'importe quel artifice graphique que tu peux utiliser. Parce que t'as l'impression que le monde est beaucoup plus palpable, même si cette physique n'est pas toujours cohérente, ça rend le monde beaucoup plus tangible que n'importe quel graphisme se disant photoréaliste. Et finalement, le style qui est adopté, la DA qui est adoptée, compense assez bien ça. Ouais. Et je trouve que cette comparaison était assez intéressante, c'est vrai que c'est vraiment une comparaison où, bah voilà, d'un point de vue gameplay, le monde est moins immersif dans Horizon parce que bah voilà, le truc est moins interactif, il est moins intéressant, il est moins bien branlé quoi.
Ouais, et puis parce que c'est vrai que c'est une ambiance aussi dans Zelda, enfin on aura peut-être plus la semaine prochaine mais
il va peut-être falloir regarder un petit peu pour la semaine prochaine. On pourrait faire toute la saison.
J'aimerais en parler maintenant mais oui, on va garder pour après. J'aime beaucoup la mélancolie de ce jeu et moi ça m'apporte beaucoup aussi dans mon immersion parce qu'on en parlait.
Je vois tout à fait de quoi tu veux dire, de quoi tu veux parler. Malheureusement, il faudra le garder un petit peu pour la semaine prochaine.
Mais pour revenir justement sur la comparaison Horizon et Zelda, par exemple, c'est un truc tout con, mais c'est vrai que rien que le fait que lorsque l'on brûle une partie de l'environnement, les feuilles ou les arbres autour ou l'herbe autour ne prennent pas feu, je trouve ça un peu décevant parce que on faisait déjà sur Far Cry en 2013, ouais, Far Cry 3, et même ça se fait depuis très longtemps dans plein de jeux. Et c'est vrai que pour un jeu aussi abouti, c'est des petits détails quand même qui font que on voit la différence.
Ce que je te disais, c'est que finalement,
ça, je pense que ça prend pas feu complètement parce que le jeu, sinon il serait en train de cracher ses tripes.
Voilà, non, c'est clair. Mais si tu veux,
juste un petit peu au moins, ou les arcs qui noircissent. Mais là, il y a rien du tout.
Enfin, là, il y a rien du tout. Hein. C'est-à-dire que le fait est, un moteur physique super abouti, ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait toute la différence en termes d'immersion. Je pense que si Half-Life 2 a autant marqué les gens à sa sortie, c'était un jeu qui était techniquement vraiment pas du tout abouti non plus. Enfin, c'était le truc tournait quoi. Il tournait même sur des configurations assez modestes, ce qui est un exploit technique en soi. Hein. Je veux pas dénigrer le fait d'aller dire je suis capable de sortir un jeu qui tourne sur des machines qui ont 3-4 ans sans aucun problème.
En vrai, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Même.
C'est plutôt une très bonne chose, mais c'est pas évident à faire. Ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices, faut faire un jeu qui est un peu moins beau, qui est un peu moins fin, qui va pas t'exploser la rétine. Mais le fait est Half-Life 2 est sorti avec ce moteur physique complètement ouf. Et les mecs ont réussi à l'exploiter correctement, et ça rendait le jeu, mais un million de fois plus immersif que toutes les textures photoréalistes du monde. Et à côté de ça, Crysis qui est sorti, je sais plus, 2 mois après, 3 mois après, 1 an après, je sais plus exactement le timing, il explosait la rétine, mais le moteur physique était à chier, et du coup, personne ne retiendra Crysis à part pour le fait que il était super beau et super beau techniquement pour son époque, mais à part ça, le jeu, tout le monde s'en branle, quoi. Alors qu'Half-Life 2, aujourd'hui, il y a toujours un culte autour, toujours une espèce de grand respect autour de ça.
S'il y avait un seul truc sur Crazy, c'est que tu pouvais découper les arbres en tirant dessus, les palmiers.
Oh.
Tu peux le faire dans Zelda aussi.
Mais tu peux tout faire dessus. Dans Zelda.
Et après, dans Zelda, tu peux utiliser les arbres qui sont tombés pour faire des ponts et traverser les marais.
Alors, ça par contre, c'est tellement bien.
Ou alors tu les exploses à la bombe pour faire des fagots. Ou alors tu les redécoupes pour faire des fagots. Ou alors tu les lances sur les ennemis s'ils sont en contrebas.
Ou alors tu fais du cinétisme. Tu tapes dedans un petit peu, et après tu vas dessus pour que ça te transporte comme Tao Pai Pai dans Dragon Ball.
Putain,
et oui, c'est faisable, là c'est génial.
Zelda rencontre Kerbal 16 programme.
C'est exactement ça, putain. C'est exactement
Attends, moi j'ai fait du golf avec une caisse pour pouvoir shooter un Octorod qui était dans l'eau. Hein.
Non mais voilà, c'est... Vous vous rendez compte de la quantité de possibilités complètement ouf, simplement laissées par le fait de... Finalement, on a donné aux joueurs une espèce de grand terrain de jeu. Mais pas un grand terrain de jeu façon Minecraft où on te laisse faire tout ce que tu veux, ou façon, je sais pas, Goat Simulator, où on te lâche dans un terrain de jeu géant, mais on te lâche dans un monde parfaitement cohérent, très bien fait, avec un moteur physique et chimique tellement bien foutu que finalement tu peux faire à peu près ce que tu veux, ça va passer. C'est encore mieux que tous ces jeux bac à sable finalement. Ils ont réussi à faire un jeu bac à sable open world, aventure, machin, qui marche.
Pour moi, c'est un jeu encore plus. Enfin, bac à sable dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire que dans un bac à sable, souvent on pense que t'es assez libre, tu fais ce que tu veux, mais enfin, tu peux aller un peu où tu veux, mais là ça va encore plus loin parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux.
Oui, c'est ce qu'on disait, aller battre Ganon, normalement, hein, en ligne droite, ça devrait prendre 3 heures. Je pense que personne n'a réussi.
Alors, le record en speedrun à l'heure actuelle est aux alentours de 50 minutes.
47 minutes 50 pour être précis.
Waouh, wow, bah, je sais pas, je suis pas. Déjà, tu vois, le jeu est sorti il y a même pas un mois, quoi.
Mais moi je trouve ça intéressant aussi. Même les développeurs avaient dit qu'ils trouvaient ça super intéressant, que les gens aient trouvé tout un tas de techniques pour zapper tout un tas de trucs. Moi je trouve ça assez fascinant dans le principe. Mais c'est vrai que, enfin, même voilà, en termes de progression, c'est vraiment la progression par la découverte. Et il y a un autre truc qui est tout con, dont on n'a pas encore vraiment parlé, même si ça fait partie un petit peu du truc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, on n'a pas tellement besoin de cartes. C'est-à-dire qu'on la regarde assez souvent pour tout un tas de raisons, mais pas pour se repérer. Toutes les zones ont une personnalité bien définie. Et je veux dire, un moment où il y a une quête qui demande à aller repérer certains endroits précis sur photo, il faut pas très longtemps en fait pour se rendre compte que ah tiens, ça doit être tel truc. Ah, du coup la photo elle doit être prise de là.
Alors on en reparlera sûrement plus tard de ces photos là, mais en fait quand tu fais très bien attention, à part pour une et la photo de la forêt, les autres ont toutes une espèce de point de repère dans le décor au loin, et tu peux savoir où elles sont placées par rapport à ce point de repère en étant un minimum observateur. Et on a 3-4 comme ça que j'ai trouvé juste parce que ça me dit un truc, cette montagne au loin, j'arrive à voir à peu près où elle est sur la carte, tu vois.
Mais voilà, mais même t'as le côté, on parlait tout à l'heure, la forêt tropicale, le désert, la montagne, le machin, toutes les zones
ont leur personnalité.
Personnalité, leur végétation, leur type d'ennemi, ce qui fait que, je sais pas, moi je me suis jamais senti paumé. Alors que dans un Assassin's Creed, je passe mon temps à regarder la carte parce que je sais à peu près jamais où je suis, quoi.
Ah, c'est ça, il n'y a rien d'autre qui ressemble plus à un quartier de Rome qu'à un autre quartier de Rome.
Hein. Exactement. Alors que là, tout a de la personnalité. Alors effectivement, c'est pas très crédible ou réaliste, ou je sais pas comment on pourrait dire, parce que t'as une jungle tropicale qui est juste à côté d'une prairie verdoyante qui est juste à côté.
Oui, on passe du coq à l'âne, mais en même temps, ça a toujours été le cas dans Zelda. Hein.
Oui, voilà, mais t'as l'impression que c'est une espèce de patchwork de monde qui est un peu cousu à l'arrache, mais ça marche très bien en même temps.
Et ça a le bon goût d'être plus progressif. Et tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de la technique, on n'a pas mentionné, mais il y a zéro temps de chargement quand tu te balades sur la carte, hein. À part quand tu te téléportes et que tu entres dans les sanctuaires.
Bah, les seuls moments où tu as des temps de chargement, c'est quand tu entres dans les sanctuaires.
Et quand tu te téléportes.
Oui, quand tu te téléportes, c'est relativement logique quand même.
Mais dans les villages, avant, à chaque fois que tu rentres dans une maison, tu avais un petit temps de chargement, c'était insupportable. Là, oui, bah, en fait, ça se fait naturellement.
Et du coup, voilà, effectivement.
T'as des changements de biodôme entre les zones qui sont assez impressionnants quand tu décides de te téléporter ou de gruger, mais quand tu suis les chemins, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment progressif, et en fait, même si tu passes de la prairie verdante à la forêt tropicale, ça vient assez naturellement, finalement.
Alors, effectivement, c'est peut-être plus naturel quand tu te balades à pied, parce que, effectivement, le déroulement est un peu plus,
si tu passes ton temps à organique. Planer, là, tu t'en rends moins compte.
Mais voilà, mais ce que je trouve impressionnant, au final, si on devait définir Breath of the Wild en un mot, moi j'aurais dit organique. C'est-à-dire que tu sens que absolument tout a une espèce de cohérence presque viscérale, que ce soit le décor, que ce soit effectivement la physique, que ce soit les ennemis, que ce soit la progression dans le jeu. Il fait rien de mieux que les autres finalement, mais il fait tout bien. Ce qui est quand même assez impressionnant.
J'aurais même dit, sur Nintendo Man, pour les réseaux sociaux, ils avaient demandé à ce qu'on résume notre expérience sur le jeu au bout de quelques jours en un mot. Moi j'avais dit fraîcheur, mais à l'époque c'était par rapport aux anciens épisodes. Et en fait je pense que ce mot est toujours valable, mais pour une autre raison, c'est que ce jeu arrive toujours à être frais en fait, quel que soit l'endroit où tu vas, comment t'avances. T'as l'impression au bout d'une heure, voilà, t'as fait le tour et en fait tu découvres encore des trucs, encore de nouvelles façons de progresser, des nouvelles zones. Des nouveaux personnages, des nouveaux ennemis encore plus débiles que les précédents.
C'est le jeu passe son temps à se renouveler en permanence et t'as pas deux runs qui se ressemblent. C'est-à-dire si aujourd'hui tu devais recommencer le jeu à zéro, tu procéderais pas du tout de la même manière.
Bah déjà, je commence à connaître une partie de l'environnement, mais voilà. Si maintenant je devais recommencer à zéro, je serais dans une zone où je suis pas encore allé. J'ai exploré que le sud-est de la carte.
Ah mais voilà, c'est ça qui est ouf. Drosgar, c'est peut-être celui qui a le passé le plus de temps. T'en es à combien là, 70 heures, quelque chose comme ça?
Ouais, 65, je pense.
Est-ce que tu as ouvert toute la carte?
Oui. Alors, par contre, voilà, j'ai fait tous les tours quand même parce que c'était un de mes buts d'avoir toute la carte. Mais il y a tellement de choses que je dois voir que maintenant, bah, je fais des petits chemins entre de sanctuaire à sanctuaire, de lieu que je connais à lieu que je connais pas, et je me donne des objectifs perso. Mais c'était quand même un but d'avoir toute la carte pour avoir rapidement une vue d'ensemble en fait sur tout ce qu'on avait à faire.
Bah en fait moi j'ai bien moi je suis parti du principe que je récupérais les cartes des zones et après j'essaie d'un peu de faire le tour d'explorer un petit peu les endroits qui me paraissaient mystérieux. Du coup c'est vrai que j'ai une tendance à rester souvent aux mêmes endroits. J'ai décidé à bouger. Je crois que ça fait 3 jours je me suis dit que je devrais aller au deuxième donjon et je l'ai toujours pas fait. Alors c'est une zone que j'ai pas explorée hein, mais oh j'ai trouvé la forêt tropicale. Oh ça a l'air d'être avoir des trucs cool là-bas. Allez.
Mais dans le même ordre d'idée je crois que je suis un des seuls à avoir commencé par le désert en première zone. Et donc du coup, ben, le premier donjon, on va appeler ça un donjon, hein, comme ça on spoil pas trop, ben, je l'ai fait, et en fait, je me suis dit sur le coup, c'est quand même un peu compliqué tout ça, et finalement j'ai fait le deuxième, un peu dans la foulée, et je l'ai trouvé un petit peu moins compliqué, mais le fait est, tout était accessible, je veux dire, il n'y avait pas de piège. T'as les moyens de faire absolument tous les donjons dans l'ordre que tu veux, et
oui,
c'est
en
vrai
fait,
que...
tous les éléments du jeu, tu
quasiment
peux les faire
tous les éléments du jeu.
Dès que tu sors de la zone de départ.
Alors il y a quand même 2-3 trucs...
Oui, bon.
Même en ayant la technique, c'est un petit peu chaud du cul.
J'irai pas jusqu'à affronter les pieuvres mécaniques avec 3 cœurs, mais.
Non, mais après, voilà, le fait est, il y a tout un tas d'ennemis dans le jeu qui te one-shot, mais qui te one-shot littéralement.
Ah oui.
Que tu te fais. Mais
couper en deux.
Ah, mais vraiment, tu te fais couper en deux, tu te fais désanusser, mais en 30 secondes. Mais une fois que tu maîtrises à peu près les patterns de l'ennemi, et une fois que tu maîtrises à peu près le système de combat, c'est-à-dire le fait d'aller parer, attaquer, essayer de provoquer un ralenti, une espèce de bullet time, pour pouvoir aller taper les ennemis d'une certaine manière et tout ça, bah dès que tu maîtrises ça, en fait, même les ennemis les plus costauds du jeu, les plus rotors, alors effectivement, t'as jamais le timing parfait, donc du coup, c'est utile d'avoir 9, 10, 12 cœurs pour pouvoir encaisser les coups qu'ils vont te mettre.
Ou de la bouffe que tu as préparée.
Exactement.
Pour améliorer tes stats, récupérer des cœurs et les dépenser plus facilement.
Donc tu peux, avec 3 cœurs, en théorie, tu peux battre à peu près tout. Et de l'équipement de merde, tu peux battre tous les ennemis du jeu. Simplement, tu vas y passer un moment.
Ouais, mais à côté, donc parce qu'on va peut-être en parler un petit peu quand on arrive à la fin, t'as tout un aspect craft avec essentiellement de la cuisine.
Le seul aspect craft, c'est la cuisine.
C'est la cuisine, donc qui correspond à deux choses. Donc, faire des plats à partir d'ingrédients qu'on trouve dans le jeu, donc des fruits, de la viande que tu obtiens en chassant, du poisson et des œufs ou du beurre que tu peux acheter dans les villages, et des potions que tu fais en utilisant des insectes et des éléments que tu trouves sur les monstres. Sachant qu'évidemment, en fonction des combinaisons, t'as pas les mêmes effets. D'ailleurs, les dessins des plats, par contre, sont vraiment très très réussis. Moi, ça me donne faim à chaque fois que je les vois.
C'est juste impressionnant, surtout que les premières fois, tu mélanges un petit peu n'importe quoi au pif, tu vois, pour essayer, parce que tu comprends pas trop le système. Et tu te dis, ah putain, j'ai fait des boulettes de viande à ça, ça a l'air vachement bien, en fait.
Et puis au bout d'un moment, tu comprends comment ça fonctionne et comment tu peux obtenir des gros boosts à ton attaque ou à ta défense en combinant les bons éléments. Là, j'ai fait un plat qui me rajoute 3 épées au niveau de l'attaque. Autant dire que je pense que le prochain gros monstre qui m'emmerde, je vais le défoncer avec. Donc il y a vraiment beaucoup d'expérimentation à pouvoir faire. Et quand tu commences à comprendre ce système qui est pas compliqué, encore une fois.
C'est très simple, il y a des systèmes de craft beaucoup plus tordus dans d'autres jeux.
Et là pour le coup c'est même très libre. D'ailleurs c'est quand tu comprends les ingrédients qui font les plats et les ingrédients qui font les potions, ça devient très très dur de faire des plats ratés. Parce qu'au final c'est même très très logique. Mais par contre, ça demande un minimum de préparation puisqu'il faut utiliser une marmite et t'en trouves pas partout, ça. Donc, faut prendre le temps de se préparer pour partir à l'aventure et refaire son stock de plats quand tu vois que t'es à court, quoi.
Voilà, faut passer à une ville pour faire une petite halte avant d'aller attaquer la grosse montagne en te disant, ah, peut-être un mec au bout, je vais peut-être me faire buter le cul, mais donc du coup, faut que je fasse le plein de bouffe, faut que j'aille cuisiner, faut que je passe une demi-heure, un quart d'heure à cuisiner, à faire mes petits plats, mes petits machins pour arriver à m'en sortir.
Ouais, sachant que tu trouves toujours beaucoup d'éléments dans le jeu est très généreux, même au niveau des armes qui cassent, on en trouve quand même assez régulièrement. Donc t'as toujours de quoi faire, surtout qu'en plus, ces ingrédients peuvent aussi aider à la progression, parce que typiquement, on parle de la zone de froid tout à l'heure, bah, moi, comment je l'ai passé, j'ai pas fait le tour comme ton fils. J'ai pris des plats pimentés et j'ai couru, quoi.
Oui, voilà, mais il y avait plein de solutions pour sortir de cette zone-là. Moi, par exemple, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai pris une torche et j'ai allumé les feux qui étaient au fur et à mesure du truc. Et après, je l'ai fait en mode tryhard en me disant, bah tant pis, je bouffe tout ce que j'ai en stock, mais je perdrai des cœurs au fur et à mesure, c'est pas grave, mais il me reste pas grand-chose à faire.
Non, moi j'ai fait ça, j'ai juste récupéré la doudoune et puis hop, facile.
Oui, j'ai vu quelqu'un qui avait encore une dernière solution. C'est-à-dire qu'il a été exploré un truc que personne n'a exploré, et apparemment il y a très peu de joueurs qui l'ont trouvé, il a été regardé dans une cabane, il y avait une recette justement pour un plat épicé qui permettait de résister.
Oui, mais il a besoin justement de faire ça.
C'est pour la doudoune.
Non, c'est pas la doudoune, tu vas récupérer la recette, tu vas voir le vieux, et il te dit « Ah, oh, t'as retrouvé ma vieille recette, bah tiens, je t'enfile un échantillon. »
Et il file pas la doudoune aussi avec
Si, non, après, en fait, une fois que tu trouves les ingrédients pour lui refaire la recette, il va te filer la doudoune. Mais du coup, tu peux juste te contenter de ça, ou alors avoir juste la recette pour faire le plat.
Exactement. Bah, moi, j'ai fait des plats épicés, j'ai vu qu'il y avait des piments, qui étaient à l'entrée de la zone froide, d'ailleurs, la première fois. Et je lui ai dit, ah, ça ferait de faire chaud, bon, bah, faut que j'aille à la zone froide, je vais faire des plats pimentés, et go, quoi.
Alors par contre au niveau de la bouffe le truc un peu chiant c'est que c'est long à préparer je trouve. Et si on a des gros stocks à refaire, parce que là du coup de temps en temps je me suis servi de tous mes amiibo. Donc j'en ai on va dire une vingtaine. Donc je récupère pas mal de bouffe avec, ce qui peut me permettre de faire beaucoup de plats. Et lorsque je dois faire 10-15 plats à la suite, c'est chiant de devoir attendre la petite animation. Parce que ça devient vite lassant.
Tu peux la passer, mais c'est vrai que ça fait pas gagner grand chose au final. Oui, au final ça fait pas gagner grand chose. Dernier petit détail rigolo, puis après on va raccrocher parce que ça commence quand même à faire tard. Je commence vraiment à fatiguer, je suis désolé.
T'inquiète.
Quand vous mélangez n'importe quoi pour la cuisine, vous obtenez
de la merde.
Un plat douteux.
Qui est censuré. Moi je trouve ça très drôle.
Qui est censuré, effectivement ça a l'air absolument dégueulasse.
Et moi ça me fait beaucoup penser au plat douteux que tu obtiens en ratant une recette de cuisine dans Paper Mario. C'est un peu le même genre.
C'est un peu le même genre. Ma fille appelle ça des plats ragoûteux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais je trouve ça très mignon. Donc à chaque fois, elle me dit, papa, t'as fait un plat ragoûteux. Je fais, oui, ma chérie, j'ai fait un plat ragoûteux, je me suis un peu loupé. Et de temps en temps, elle me dit, vas-y, papa, fais des plats ragoûteux. Donc c'est elle qui mélange, elle fait n'importe quoi, et puis ça fait des plats ragoûteux. Et bon, elle s'amuse. Je vais pas dire autrement. Voilà, ça me faisait marrer. Je trouve que c'est un mot d'enfant très rigolo. Pour les plats merdiques dans Breath of the Wild, les plats ragoûteux. Bref. Nous allons nous quitter, c'est une émission un peu fleuve, on a vraiment essayé de condenser le plus possible sans spoiler, je suis désolé si on a révélé éventuellement quelque chose, je vous ai prévenu au début, hein, le plaisir de la découverte vous l'aurez peut-être pas forcément si vous nous écoutez, en tout cas pas pour tous les éléments on va dire mécaniques de gameplay.
On vous a donné envie sur toute la partie possibilité, bidouillage, magouillage, la partie jeu en fait globalement. Hein.
Mais normalement, au pire si ça ne vous a pas dégoûté, ça vous a donné envie, et puis si vous avez déjà joué au jeu en réalité, vous devriez avoir envie d'expérimenter encore plus avec.
Et si vous avez du mal encore à vous convaincre, on conseille de chercher Donc regardez un petit peu sur YouTube, il y a toujours des mecs qui ont 2-3 vidéos de compilation, des moments rigolos qu'ils ont fait avec le moteur physique du jeu.
Mais il y a des trucs assez ouf, il y a notamment...
Faut tester les baudruches d'Octorok, si jamais vous en
Exactement.
Avez.
Exactement. Et je pensais au monsieur qui a fait la quadruple mort aussi, qui était quand même assez marrante. Je vous expliquerai ça en antenne, parce que là on dévoilerait un petit peu de l'histoire, donc on va éviter. On va se quitter avec la citation du jour, qui n'a rien à voir avec Breath of the Wild, hein, je suis désolé, j'ai pas été raccord sur le sujet. C'est si rare, hein. Qui un jour nous a dit on dit que l'homme est l'animal le plus intelligent et pourtant j'ai jamais vu une poule faire la queue 24 heures pour un iPhone. Voilà. Merci Sierra pour cette merveilleuse contribution.
Ouais, ta gueule est métatrice.
Voilà, merci tout le monde, au revoir, bisous,
à la semaine prochaine.
Et par contre la semaine prochaine ça divulgage comme des porcs,
ça spoil
la mort, vous êtes prévenus.